Bonjour, vous écoutez RFI, il est 21h à Ramallah, 22h à Slémani et partout c'est l'heure du journal.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité, quatrième échange de prisonniers palestiniens contre otages israéliens ce samedi. 183 détenus palestiniens contre 3 otages israéliens précisément. Pendant ce temps, des pays arabes rejettent en bloc l'idée d'un déplacement des Gazaouis vers l'Égypte. Pas de salaire, pas d'école, préviennent des professeurs kurdes irakiens payés partiellement depuis plusieurs années. Mouvement de colère, les écoles sont fermées depuis une semaine au Kurdistan irakien. Certains professeurs entament même une grève de la faim. Et puis les feux à Los Angeles, enfin éteints. Incendie les plus importants de l'histoire de la ville. Bilan à la fin de ce journal. Scène de liesse à Gaza et en Cisjordanie ce samedi. 180 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël, sortis des prisons. Ils ont pour la plupart été mis dans des bus direction les territoires palestiniens. Pour beaucoup, ils sont apparus amaigris, joues creusées, visages marqués par leur détention. Leur libération s'effectue dans le cadre du récent cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. En échange de ces libérations, le Hamas a relâché 3 otages israéliens ce samedi. Cet échange est le quatrième depuis le 19 janvier. Autre événement marquant dû à ce cessez-le-feu, des blessés et des malades palestiniens ont quitté Gaza vers l'Égypte. Une évacuation via le terminal frontalier de Rafah, une première depuis 8 mois. Contexte et précision de notre correspondant Alexandre Bouchianti.
Le terminal de Rafah avait été fermé par l'Égypte au mois de mai après son occupation par l'armée israélienne. L'Égypte soutenait que, conformément aux accords conclus lors du retrait israélien de la bande en 2005, c'était aux Palestiniens de contrôler le terminal côté Gaza. Rafah est un terminal de voyageurs qui permettait principalement aux Gazaouis de partir vers l'Égypte et surtout l'étranger. Les Palestiniens devaient justifier d'un visa vers le pays de destination pour passer. Les marchandises, par contre, entraient à Gaza par le biais du terminal voisin de Kerem Shalom entre l'Égypte et Israël. Une cinquantaine de malades doivent traverser samedi le terminal et être transférés vers les hôpitaux locaux ou au Caire selon les cas. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a entre 12 et 14 000 blessés ou malades qui doivent être évacués de Gaza. Plusieurs pays ont déjà proposé de les accueillir. Alexandre Bouchianti, Le Caire, RFI.
Et puis le ministère palestinien de la Santé annonce la mort d'un adolescent tué par un drone israélien à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne mène là actuellement une large opération qu'elle présente comme antiterroriste. Pas de déplacement forcé de Palestiniens, prévient ce samedi 5 pays arabes. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Jordanie, des Émirats arabes unis, d'Arabie Saoudite et du Qatar rejettent en bloc cette proposition dans une déclaration commune. Ministres réunis ce samedi au Caire, ils tiennent donc tête au président américain Donald Trump qui a récemment lancé cette idée. Ces ministres veulent travailler, je cite, à une solution à 2 États. Depuis une semaine, les écoles du Kurdistan irakien sont fermées. Les professeurs font grève pour réclamer le paiement de leur salaire. Ils ne sont pas payés du fait de querelles financières entre gouvernement régional kurde et État fédéral irakien. Alors que des négociations doivent avoir lieu ce week-end à Slémani, les plus mobilisés des enseignants ont entamé une grève de la faim. Reportage sur place de notre correspondant Lucas Lazo.
10 professeurs ont installé leur lit de camp sous les fenêtres des Nations Unies à Slémani, deuxième ville du Kurdistan. Pas question de les en déloger avant que leur salaire de décembre et janvier ne soit versé. Affaibli et perfusé, cet enseignant de biologie dénonce une situation qui dure depuis trop longtemps.
Je n'ai pas mangé depuis 4 jours, ma pression artérielle est en train de chuter. Depuis 2014, je ne peux pas me souvenir d'une seule année où nous avons reçu l'intégralité de nos salaires. Parfois, ils nous paient seulement le quart de notre salaire mensuel.
De plus en plus d'enseignants sont contraints de trouver un second travail. Pour s'en sortir, Fazel, prof d'art plastique, souligne la responsabilité des autorités kurdes.
Notre grève de la faim est dirigée contre un gouvernement sourd et aveugle. Nous avons protesté par tous les moyens traditionnels, sans réaction. Nous avons même sollicité la Cour fédérale irakienne, qui a jugé que ce devait être à Bagdad de distribuer nos salaires, mais le gouvernement du Kurdistan ne respecte pas cette décision.
Ces retards de salaire sont la conséquence du bras de fer financier qui oppose le gouvernement régional kurde et l'État central irakien autour de la répartition des revenus du pétrole du Kurdistan. Si les écoles sont fermées depuis dimanche, pour ce professeur, cette protestation est une bonne leçon.
Je veux rappeler aux enfants qu'ils apprennent aussi à lire et à écrire pour apprendre à défendre leurs droits. Nous resterons ici jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que nos droits soient respectés.
Cette grève de la faim des professeurs est hautement symbolique puisque la dernière remonte aux années 90 et à la lutte pour l'autonomie du Kurdistan en Irak. Luc Elazo, Sleimani, RFI.
Après 3 semaines d'horreur, les incendies sont enfin maîtrisés en Californie. Les 2 feux dévastateurs qui ont ravagé Los Angeles sont totalement sous contrôle, disent les pompiers. Bilan final, 30 morts et des milliers de déplacés. Ces incendies, les plus destructeurs de l'histoire de la deuxième ville des États-Unis, ont causé de larges dégâts et ont profondément traumatisé Los Angeles. Nicolas Roca.
Plus de 10 000 habitations envolées en fumée et des milliers de personnes contraintes d'évacuer. Les incendies de Palisades et d'Eaton vont laisser une marque durable sur la Cité des Anges. Une empreinte financière d'abord alors que les pertes économiques seraient de plus de 250 milliards de dollars selon la société météorologique AccuWeather. Et puis les dégâts vont modifier durablement le visage des 2 quartiers les plus touchés par les flammes, Pacific Palisades et Altadena. Une étude publiée cette semaine par des dizaines de chercheurs assure que le changement climatique a desséché la végétation et créé les conditions de l'incendie. Des conditions qui pourraient se répéter à d'autres occasions, notamment l'hiver, lorsque les puissants vents de Santa Ana soufflent sur la ville. La priorité des autorités est d'abord de nettoyer pour reconstruire le plus rapidement possible, a assuré la maire de Los Angeles. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a lui attribué une enveloppe de 2,5 milliards de dollars et signé un décret pour réduire les délais d'obtention des permis de construire.
Nicolas Roca. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur ces incendies, vous pouvez écouter le podcast de RFI Témoins d'Actu qui date du 23 janvier dernier. Alexandra Cagnard interroge Loïc Piala, notre correspondant sur place, sur la couverture de cette catastrophe entre défis journalistiques et choix éditoriaux. Les négociations musclées de Donald Trump face à l'immigration illégale continuent d'avoir des effets en Amérique latine. Ce samedi, le nouveau chef d'État américain affirme que le Venezuela a accepté de reprendre ses ressortissants expulsés des États-Unis, y compris les chefs de gang, précise Donald Trump. Transporter des marchandises en bateau à voile, c'est un défi à l'heure où les paquebots à mazout sont la norme et responsables d'une pollution monstre dans le monde. Défi relevé par le Neoline. Origine, nom du bateau, considéré comme le plus long cargo à voile du monde. Il a été mis à l'eau vendredi à Tuzla, pas loin d'Istanbul. Ce géant des mers pourra transporter 5300 tonnes de marchandises sur de longues distances. Précision, Igor Strauss.
136 mètres de long, 2 immenses mâts et 3000 mètres carrés de voilure, soit l'équivalent d'un demi-terrain de football. Telles sont les caractéristiques assez exceptionnelles de ce nouveau cargo à voile. Grâce au vent et en réduisant la vitesse de 15 à 11 nœuds, soit de 30 à 20 km heure, on divise par 5 la consommation de carburant et donc les émissions par rapport à un navire classique, souligne Jean Zanoutini, le président de Neoline. Au total, ajoute-t-il, c'est environ 80% d'économies d'émissions de gaz à effet de serre qui seront réalisées. La décarbonation de ce secteur est une nécessité. Aujourd'hui, 90% du commerce mondial est effectué par voie maritime, ce qui représente près de 3% des émissions de gaz à effet de serre selon l'Organisation maritime mondiale. Ce cargo à voile quittera la Turquie les cales pleines au cours de l'été 2025 pour rejoindre le port français de Saint-Nazaire, puis il débutera sa première rotation vers Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax sur les côtes nord-américaines. Neoline espère désormais la mise en chantier prochaine d'un second cargo bas carbone.
Igor Strauss du service environnement de RFI. Et puis pour terminer ce journal du sport du rugby, première journée du tournoi Destination, l'Écosse a battu l'Italie 31 à 19 ce samedi à Édimbourg. L'Irlande a elle renversé l'Angleterre à l'instant 27 à 22. Le tournoi Destination, vous le savez, c'est cette compétition de rugby à 15 disputée chaque année entre les équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. Et puis en tennis, le français Hugo Humbert, 15e joueur mondial, a offert le premier point à la France lors de la Coupe Davis. Il a battu finalement le Brésilien João Fonseca. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Dans une demi-heure, le rendez-vous du journal Afrique sur RFI.